Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de l'émission Libre Propos, l'émission de Radio Grand Ciel qui vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori. Eh bien, cette semaine, c'est une émission en distanciel, comme on dit, mais ma foi, depuis l'apparition du Covid, nous avons pris l'habitude du distanciel et ça ne changera rien, bien évidemment, à la teneur des propos qui seront tenus aujourd'hui. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe.
Alors, nous allons évidemment parler peut-être du second tour de l'élection présidentielle, de la réélection d'Emmanuel Macron. Comment avez-vous vécu ce moment? Et puis aussi, peut-être plus largement, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président Emmanuel Macron?
Alors, bien sûr, ça a été un événement important. C'est toujours un événement que d'élire un nouveau président de la République française. D'abord, j'ai découvert que les catholiques pratiquants avaient voté à 95%. Autrement dit, l'abstention est très faible chez les catholiques et je m'en réjouis parce que il y a une conscience politique qui est là, exprimée par ça, comme quoi c'est important de voter. Et je pense que c'était effectivement signifiant. Notre attachement à l'engagement politique en tant que chrétien. Surtout que cet engagement politique, pour nous, passe beaucoup par des œuvres sociales que nous faisons quand nous pouvons, à travers différentes associations et mouvements, vers les plus pauvres, vers les déshérités, vers ceux qui sont peut-être avec un handicap, etc. Après, je vois bien que l'élection du président Macron à la fois a suscité une certaine adhésion à sa personne, d'autres peut-être ont voté pour lui par réaction contre une proposition autre dont il ne voulait pas, mais qu'on constate quand même qu'il y a vraiment un clivage conséquent aujourd'hui, on peut dire, entre trois blocs, le bloc plutôt de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, le bloc très à droite avec Marine Le Pen et le bloc du président. Donc on attend maintenant bien sûr les élections législatives pour donner à ce nouveau temps politique à Parlement. J'espère qu'on aura une campagne qui sera intéressante, qui abordera des questions de fond comme bien sûr l'écologie, mais aussi le respect de la vie, notamment la vie dans la vieillesse, le respect de cette vie, et non pas l'euthanasie que certains veulent appeler de leur vœu. J'espère qu'on parlera aussi de l'éducation, qui est une question très, très, très importante à mon point de vue, pour donner une espérance à des jeunes face à un monde incertain, un monde qui est tenté par la guerre, dans certains pays, et qui pourrait aussi avoir des conséquences chez nous. Donc il y a beaucoup de sujets difficiles. Je souhaiterais une nation unie et non pas clivée, comme c'est un peu le cas actuellement. Ouais. J'espère beaucoup qu'on verra des choses positives.
Alors, en épluchant les résultats dans notre département, c'est-à-dire que le territoire diocésain, finalement, donc on s'aperçoit que Marine Le Pen a eu beaucoup de voix, et notamment dans les campagnes, puisque 228 communes rurales de l'Eure-et-Loire l'ont porté en tête de ce second tour. Ça veut bien dire qu'il y a des inquiétudes dans le pays, et notamment dans le département de l'Eure-et-Loire, département très rural.
Bah, c'est sûr qu'il y a un vote qui s'exprime de la part de gens qui vivent sûrement éloignés de ce circuit, on peut dire, économique, mondialisé, Internet, qui ont un sentiment de délaissement, peut-être même d'injustice. L'Église a la chance d'être assez présente sur le rural, avec notamment des paroisses et des écoles, particulièrement dans certaines parties de ce département de la Beauce, du Perche aussi. Et ces écoles qui parfois ont deux classes, trois classes. On essaie vraiment d'être présent pour être au plus proche des gens. J'espère qu'on entendra cette réalité aussi dans les mois et années à venir. Ouais.
Alors là, vous avez parlé de la guerre il y a quelques secondes. Il semble que la situation s'aggrave puisque la Moldavie se sent aujourd'hui vraiment menacée, que de nombreux experts militaires disent que la guerre pourrait s'étendre en Moldavie. En Russie, on parle même de l'éventualité d'une troisième guerre mondiale. Bref, la situation empire.
Oui, ça semble être une très forte inquiétude. Je ne connais pas beaucoup les enjeux militaro-géographique actuellement. Je vois que les pays nordiques, la Finlande, la Suède se rapprochent de l'OTAN, qu'il y a cette somme de sanctions qui s'accumule. La Pologne vient de voir les livraisons de gaz russe donc interrompues vers ce pays, la Pologne. Donc, je sens que c'est de plus en plus tendu. Vraiment, il nous faut d'abord prier profondément. J'appelle ceux qui m'entendent et qui ont une vie de prière, qui pensent que le Seigneur peut être aussi d'un grand secours pour appeler la sagesse sur les hommes, bien le faire. Prions pour ça, prions pour la paix. J'espère aussi qu'on a des gens qui seront assez intelligents pour négocier, pour aller au contact des belligérants, notamment du président Poutine, qui semble quand même être assez jusqu'au boutiste dans sa position. J'espère que le pire n'est pas sûr. Donc voilà. On sent qu'il y a une grande gravité dans ce qui se lit.
Oui. Vous avez parlé de la prière et cela tombe bien, si j'ose dire, puisque je voulais que vous nous parliez de la 8e édition de l'école de prière qui se déroulera cet été. Il s'agit de 3 camps, finalement, qui sont proposés pour les 7 à 17 ans. La prière, ça s'apprend.
Oui, j'étais très frappé quand je suis arrivé il y a 4 ans dans ce diocèse, de voir le succès de ces écoles de prière qui rassemblent des jeunes préadolescents et adolescents, même encore enfants, grands-enfants. En général, c'est 5 jours. Bien sûr qu'ils vont vivre des temps très fraternels, des temps d'activité sportive, de découverte aussi de visites, mais il y a de longs moments prévus pour les faire rentrer dans cette relation à Dieu par la prière silencieuse, la prière de louange, la lectio divina, qui consiste à méditer la parole de Dieu, aussi la Sainte Eucharistie, important comme sommet de leur journée. Très surpris de voir l'adhésion, au point qu'il a fallu multiplier les propositions, donc pas seulement en juillet, mais aussi en août. Il y a le père Louis-Marie Cusinier, à qui j'ai confié un peu d'accompagner ces écoles de prière, avec d'autres prêtres, bien sûr. On voit que des propositions se font aussi aux petites vacances scolaires. Mais c'est un très beau projet, et tout enfant, tout adolescent est le bienvenu. Je pense qu'il faut quand même s'inscrire assez vite, parce que ça se remplit très vite. Et c'est un beau moment aussi de joie entre eux.
Oui, je suis frappé de noter à quel point parfois pour beaucoup la prière semble rébarbative ou voire une pratique d'un autre temps, alors qu'on parle de lâcher prise. Il n'y a pas finalement de plus beau lâcher prise que le moment de la prière, non ?
Non, mais la prière est difficile. Il faut pas se voiler la face. La prière est difficile parce que nous parlons, nous écoutons un Dieu qu'on ne voit pas. Donc sa parole passe par des moyens très subtils, passe par la parole de Dieu elle-même qu'on a pu méditer et qui revient à l'esprit, comme on dit, parce que l'Esprit Saint la réveille en quelque sorte en nous. Elle passe, cet échange passe aussi par l'écoute de paroles d'un saint, d'une prédication, par exemple, ou d'émotions intérieures. Donc c'est difficile, assurément, d'être fidèle à la prière. Et pourtant, c'est un bienfait incroyable que de prier chaque jour. La prière a comme fruit d'apaiser l'âme, de donner aussi parfois des intuitions pour un pardon, pour une parole de vie, alors que spontanément on pourrait être comme excité ou même parfois dans la forme de rancune ou de violence verbale. Eh bien, la prière apaise tout ça. La prière est un bienfait. Il nous faut, c'est la respiration de l'âme, la respiration intérieure d'une vie spirituelle. J'aimerais tant qu'on la développe parce qu'ensuite de cette prière naît un élan du cœur qui nous pousse vers les autres, vers l'action sociale, on peut dire, vers l'amitié, vers l'entraide. La prière n'est pas indifférente au monde, elle n'écarte pas du monde, elle nous rapproche de Dieu pour nous rapprocher des hommes, en fait.
Oui. Il nous reste 4 petites minutes. Je voudrais qu'on revienne sur votre dernier message fraternel où vous évoquez l'octave de Pâques. Alors, l'octave de Pâques, ce sont les 8 jours après la fête de Pâques. Et ce sont de grands moments. Ce sont de grands moments dans l'Évangile aussi, puisque, évidemment, c'est la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Mais Jésus continue d'apparaître aux disciples. Vous le dites, en fait, sa résurrection l'a fait entrer dans une nouvelle dimension. C'est-à-dire que désormais, et c'est une grande nouvelle, il outrepasse, si j'ose dire, les frontières de l'espace et du temps. C'est sa véritable nature qui nous apparaît après Pâques.
En fait, effectivement, Jésus ressuscité après 3 jours passés au tombeau, va apparaître pendant 40 jours aux apôtres et même à des groupes conséquents dont rapportent les évangélistes et aussi saint Paul plus tard, qui était lui-même en échange direct avec des apôtres qu'il a rencontrés à Jérusalem. Puis sur son chemin, Jésus ressuscité semble affranchi des contingences matérielles de son humanité. On peut dire qu'il est glorifié, glorieux. Dans ses rencontres, il vient à brûle pour point, mais un peu à l'improviste, et rencontrer les apôtres, rencontrer les femmes, rencontrer Marie-Madeleine, rencontrer aussi ces hommes qui ont repris le chemin de leur travail, comme par exemple Pierre au bord du lac. Il va leur communiquer ses dons, il va leur communiquer profondément l'Esprit Saint, recevez l'Esprit Saint, hein, et je vous envoie de toute nation, faites des disciples, baptisez et guérissez les malades. Donc il y a cet envoi en mission avec la puissance de l'Esprit qui accompagnera tous ceux qu'ils feront, ces apôtres, et qui partiront effectivement très, très courageusement, eux qui étaient des hommes d'un peu d'une Galilée, de la Judée, d'une région très petite, au fond ils partiront au bout du monde, ce qui est à l'époque très, très compliqué, des voyages hasardeux et très grands. Mais ils sont convaincus que le Christ est présent, ressuscité avec eux, que l'Esprit les accompagne. Et les actes des apôtres racontent ce récit. Moi, je vous encourage à ouvrir la Bible et à lire dans ce temps pascal ce livre, les actes des apôtres, qui est comme un peu comme un roman merveilleux, magnifique, de voyages, mais aussi de rencontres, d'échanges et de miracles que l'Esprit va opérer à travers les apôtres.
Oui, finalement, l'élan missionnaire, il commence juste après la résurrection du Christ, l'élan missionnaire de l'Église.
Bah, il commence très tôt parce que le Christ va les quitter, c'est l'ascension. 8 jours après, c'est la fête des Juifs, fête de Pentecôte, lors de laquelle les apôtres reçoivent l'Esprit en abondance, hein, le récit en parle très clairement. Et de suite après, Pierre et d'autres sortent dehors, affranchis de leur peur, la peur des représailles en tant que disciples d'un homme condamné, et ils vont parler et toucher des milliers de cœurs. Ils parlent avec une conviction assurée de la résurrection. C'est un peu un langage de folie, parce que qui peut comprendre la résurrection d'un homme? Et néanmoins, ils ont une telle passion, une telle puissance en eux, qui n'est pas une puissance humaine, mais l'Esprit Saint, que les cœurs sont touchés et que les gens vont adhérer à cette annonce magnifique de la résurrection, qui pour nous est le cœur de la foi chrétienne.
Merci beaucoup, Monseigneur Christori. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau Libre Propos. Chers auditeurs et auditrices, vous pourrez réécouter l'émission que nous venons de réaliser sur www.radiograndciel.fr. À très bientôt.